VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 3 février 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Rodé Bion. Pour commencer, les titres.
En RDC, opposition et pouvoir confondus continuent de rendre hommage à l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé cette semaine.
Sommet européen aujourd'hui à Malte sur la crise migratoire et le projet de soutien en Libye à la lutte contre les passeurs.
L'administration Trump envisagerait d'imposer de nouvelles sanctions ciblées contre l'Iran, selon une source de l'AFP.
De nouvelles colonies israéliennes ou l'expansion de colonies existantes dans les territoires occupés pourraient ne pas favoriser la paix avec les Palestiniens, estime la Maison-Blanche.
La situation critique dans l'est de l'Ukraine appelle une condamnation forte et claire des agissements russes, a déclaré hier à l'ONU l'ambassadrice américaine Nikki Haley.
Et ne manquez pas notre journal de la CAN au Gabon ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, le pouvoir et l'opposition saluent unanimement la mémoire de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé mercredi en Belgique. Le jour et le lieu des funérailles ne sont pas encore connus et à Bruxelles, 3 veillées sont organisées en son honneur. Eric Manirakiza.
Le parti d'Étienne Tshisekedi a indiqué que le programme des obsèques sera annoncé prochainement. Malgré les divisions politiques dans le pays, pouvoir et opposition reconnaissent à l'unanimité le rôle de M. Tshisekedi dans la vie démocratique de la RDC. Hier, des taxis individuels ou collectifs dans la capitale Kinshasa arboraient des rameaux en signe de deuil. Et des sympathisants manifestaient leur tristesse au quartier général de l'UDPS et dans le quartier Limété où réside la famille Tshisekedi. La mairie de Bruxelles a offert une salle pour 3 jours de veillée funéraire pour ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage. Selon la télévision publique belge RTBF, son corps sera exposé dimanche. L'Union européenne et la France ont exhorté tous les Congolais à honorer la mémoire du disparu tout en privilégiant la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Pour sa part, Dicky Dilo a recueilli cette réaction d'Albert Moleka, secrétaire particulier d'Étienne Tshisekedi.
Et à titre personnel, c'est d'abord un papa que je perds et c'est mon président que je perds. Et j'espère simplement que les Congolais pourront relever le défi qui est devant eux, à savoir que sa disparition puisse rassembler les Congolais plutôt que les diviser. C'est le défi qui se présente à tous les Congolais. L'absence d'Étienne Tshisekedi, ça crée un grand vide sur l'échiquier politique et principalement dans les rangs de l'opposition, comme il était la tête du Rassemblement en tant que président du Conseil des Sages et qu'il devait aussi présider le Conseil national de suivi des accords du 31 décembre. Il appartiendra au Rassemblement de désigner un nouveau président du Conseil des Sages qui pourra occuper ses fonctions au niveau de la mise en application de l'accord qu'ils ont signé avec la majorité présidentielle. Ce ne sera pas une tâche facile, mais je crois que en tant que personnage historique, il a pu léguer à tous ceux qui l'ont côtoyé, il a pu l'aider cet esprit de dépassement de soi afin de trouver les solutions dans l'intérêt commun.
C'était au micro de Dili Diko, Albert Moleka, secrétaire particulier d'Étienne Tshisekedi.
La Suisse a décidé de durcir les conditions d'accueil des Érythréens qui forment le premier contingent de demandeurs d'asile. Ils n'auront plus automatiquement le statut de réfugié, les précisions John Needham.
Le tribunal administratif fédéral a décidé hier qu'une sortie illégale d'Érythrée ne pouvait justifier la reconnaissance du statut de réfugié. Depuis des années, des Érythréens ont pu bénéficier de l'asile en Suisse en expliquant qu'ils avaient quitté leur pays de manière illégale et qu'ils s'exposaient en cas de renvoi à un risque de persécution. L'an dernier, l'Érythrée a été le principal pays de provenance des requérants d'asile en Suisse, avec plus de 5 000 demandeurs d'asile. Ils étaient près de 10 000 en 2015. Dans son arrêt daté du 30 janvier, le tribunal administratif fédéral constate que de nombreux Érythréens sont retournés dans leur pays pour de brefs séjours et sont ensuite revenus en Suisse. Certains sont notamment allés rendre visite à leur famille après avoir obtenu l'asile. Dans ce contexte, selon les autorités helvétiques, on ne peut plus dire que les Érythréens sont exposés. Maintenant, tout Érythréen qui veut obtenir l'asile devra faire valoir d'autres raisons.
Plus de 1750 migrants ont été secourus mercredi et jeudi au large de la Libye, ont annoncé les gardes-côtes italiens et des ONG à la veille d'un sommet européen centré sur cette question. Ces nouvelles arrivées de migrants interviennent alors que plus au nord, les préparatifs étaient en cours à Malte pour un sommet européen vendredi qui doit être largement consacré à la crise migratoire et au projet européen de soutien en Libye à la lutte contre les passeurs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Téhéran a réagi aux déclarations de Washington. Le gouvernement iranien affirme que la mise en garde de l'administration américaine à l'Iran sont sans fondement et provocatrices. Jacques Aristide.
La réplique est venue du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi, qualifiant les remarques faites par le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump de répétitives. Le conseiller Michael Flynn, un ancien général, avait déclaré mercredi que les États-Unis mettaient officiellement l'Iran en garde. Sur Twitter hier, le président Trump a renchéri en écrivant que l'Iran avait été formellement mis en garde pour avoir tiré un missile balistique et d'ajouter que ce pays devrait remercier l'accord désastreux que les États-Unis ont conclu avec lui sur le nucléaire. L'administration américaine a dénoncé ce qu'elle appelle le comportement déstabilisateur de l'Iran au Moyen-Orient, mais selon M. Ghassemi, qui n'a pas cité M. Trump, les remarques de M. Flint sont faites au moment où les efforts de l'Iran dans la lutte contre les groupes terroristes au Moyen-Orient sont connus de tous. Il a dit regretter les mesures inadaptées adoptées par le gouvernement américain, incluant l'interdiction d'entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane, dont l'Iran. Et M. Ghassemi de conclure que son pays recherche des relations amicales avec ses voisins, basées sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région.
Et selon une source proche du dossier iranien cité par l'AFP, l'administration Trump envisage d'imposer de nouvelles sanctions ciblées contre l'Iran, première traduction concrète du durcissement annoncé face à Téhéran.
La Maison-Blanche a estimé hier que la construction de nouvelles colonies israéliennes ou l'expansion de colonies existantes dans les territoires occupés pourrait ne pas favoriser la paix avec les Palestiniens. Depuis l'entrée en fonction, le 20 janvier, du président Donald Trump, réputé très favorable à Israël, le gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé son intention de construire 6 000 logements supplémentaires en Cisjordanie lors de 3 annonces distinctes. Il faut dire que le premier ministre Netanyahou doit rencontrer ce mois-ci à Washington, à la Maison-Blanche, le président Donald Trump.
Le président ukrainien Petro Poroshenko a appelé à des pressions sur Moscou au cinquième jour de combat entre soldats ukrainiens et rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Pour sa part, Vladimir Poutine a accusé Kiev d'avoir orchestré la reprise des hostilités. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadrice américaine Nikki Haley a dit que son pays veut de meilleures relations avec la Russie, tout en précisant cependant que la situation actuelle appelle une condamnation forte, claire des agissements russes.
Le secrétaire américain à la défense, James Mattis, a mis en garde jeudi la Corée du Nord, promettant une réponse efficace et écrasante en cas d'usage de l'arme nucléaire par Pyongyang, et il a rassuré Séoul du soutien américain. La visite de 2 jours à Séoul de James Mattis était le premier déplacement à l'étranger de membres de la nouvelle administration Trump. Ici à Washington, on précise que cette visite avait pour but de resserrer les liens avec la Corée du Sud et le Japon, où sont stationnés près de 80 000 soldats américains.
Et puis, pour rappeler quelques titres, Idrissa Seydou Diarra, RDC, opposition et pouvoir confondus, continue de rendre hommage à l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé cette semaine. Par ailleurs, de nouvelles colonies israéliennes ou l'expansion de colonies existantes dans les territoires occupés pourraient ne pas favoriser la paix avec les Palestiniens, estime la Maison-Blanche. Et puis enfin, la situation critique dans l'est de l'Ukraine appelle à une condamnation forte et claire des agissements russes, a déclaré hier à l'ONU l'ambassadrice américaine Nikki Haley.
Merci beaucoup Jean-Roger Bion. C'était donc un rappel des titres de l'actualité. Et tout de suite, le journal de la CAN sur VOA Afrique, présenté par Nicolas Pinault.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Le Cameroun en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera dimanche. Les Lions indomptables se sont logiquement imposés hier soir avec panache 2-0 devant le Ghana à Franceville. Le Cameroun retrouve le sommet de la CAN puisque la dernière finale datait de 2008 pour les Camerounais. Les Lions avaient alors perdu contre l'Égypte. Le Cameroun espère donc décrocher un cinquième titre continental après le dernier obtenu en 2002. Retour sur cette belle victoire camerounaise avec Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Les Lions du Cameroun ont résisté d'entrée de jeu aux assauts des Black Stars, puis ont peu à peu pris confiance et sont passés à l'offensive. Des efforts récompensés à la 71e minute par un but de Gadeux, puis celui de Bassogog aux arrêts de jeu. Hugo Bros, le sélectionneur du Cameroun, confiera plus tard qu'il croyait rêver.
On a commencé le match avec quelques occasions. Le deuxième mi-temps, à certains moments, on a un peu souffert. Mais là, naturellement, il faut un peu de chance. Et cette chance, nous avons eu au moment qu'on marque le premier but. Le deuxième but, ben, là, le Ghana a tout essayé pour égaliser. Et l'espace était là et on a marqué ce deuxième but. Encore une fois, je suis très content, surtout pour le groupe.
Pour le coach des Black Stars, Avram Grant, les Camerounais ont gagné contre le cours du match. Nous avons tout fait pour être en finale. Nous avons dominé le match en seconde période complètement, a dit le coach Avram Grant, qui a tout de même souhaité bonne chance au Cameroun. Les Lions indomptables, dont on ne vendait pas cher la peau avant cette CAN, croiseront en finale les Pharaons et un style de jeu similaire au leur, avec une solide défense et de fulgurantes contre-attaques. Timothée Donangmaï, France Lille, VOA.
Retour à présent sur la qualification de l'Égypte qui affrontera dimanche le Cameroun en finale. Les Pharaons et leur maître à jouer Salah ont éliminé le Burkina Faso au tir au but mercredi. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Au-delà du résultat de la demi-finale de Libreville, qui a vu la victoire des Pharaons contre les étalons du Burkina Faso, ce sont surtout les leçons à en tirer qui paraissent pertinentes. Jusqu'à la phase finale de 1996, dans la nouvelle Afrique du Sud, la Haute-Volta devenue Burkina Faso avait habitué les observateurs à un statut de figurant inoffensif au grand rendez-vous africain. Le tournant historique s'est opéré lors de l'édition 1998 qui avait vu le pays organisateur atteindre les demi-finales et disputer un match d'anthologie contre le Zaïre. Dès lors, la création d'écoles de football performantes a permis à ce pays, qui servait jusque-là de vivier au football ivoirien, de développer une dynamique favorable à la réussite des jeunes dans les catégories correspondantes, avec comme débouché naturel l'éclosion d'une génération exceptionnelle finaliste de la CAN 2013. C'est cette même génération qui s'est présentée en favorite face à une Égypte en reconstruction lors de cette CAN gabonaise. Mais le dicton le répète, les grandes équipes ne meurent jamais. Malgré une domination territoriale et offensive des étalons, les Pharaons, qui ont eu le culot de mener au score, ont conduit la belle équipe burkinabé jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but, perdu devant un monument de la formation intemporelle du Nil, le gardien El Adari. Nous retenons que la logique a sa réalité, mais la symbolique historique a la sienne. L'Égypte, en finale, attend d'affronter un de ses concurrents au palmarès, le Cameroun, pour le bouquet final. À bientôt.
Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Prochain point sur le tournoi ce soir sur VOA. Et rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons par la Minute Éco, Morgane Guiriec.
ProParco entend consacrer 2,7 milliards d'euros à l'Afrique. D'après Jeune Afrique, la filiale de l'Agence française de développement spécialisée dans le secteur privé a ainsi annoncé sa stratégie jusqu'en 2020. C'est un gros trou dans le budget du Ghana. Le nouveau gouvernement fait état de 1,6 milliard de dollars de dépenses non comptabilisées par le gouvernement précédent. Nouvelle taxe sur les produits alimentaires au Zimbabwe, s'élevant à 15%, elle a été mise en place dans l'objectif de renflouer ses caisses, vidées par la sévère crise financière qui frappe le pays, rapporte l'AFP. Sont concernées les pommes de terre, le riz, la margarine et la viande. Sachez enfin que le prix des produits alimentaires a nettement augmenté en janvier à l'échelle mondiale, à en croire l'indice FAO. Une hausse stimulée par le sucre et les céréales, indique l'AFP.
En République démocratique du Congo, le décès de l'icône de l'opposition Étienne Tshisekedi est survenu dans une période de négociations politiques cruciales pour mettre en place la nouvelle transition. En l'absence d'un calendrier réaliste des élections, sa mort va relancer les négociations. Eric Manirakiza a joint à Bruxelles la journaliste Colette Brackman, spécialiste de la RDC, pour savoir s'il sera facile de remplacer M. Tshisekedi.
Pas du tout, parce que M. Tshisekedi, par son intransigeance, c'était comme un gardien, un vigile qui allait veiller à la bonne application des accords signés par lui-même et par l'opposition en décembre. Et il sera difficile de trouver quelqu'un d'aussi ferme et avec des idées aussi arrêtées que lui. Et je crains que dans un premier temps, avant de se ressaisir, l'opposition sera affaiblie par sa disparition.
Il n'y a pas quelqu'un dans ses rangs qui peut jouer son rôle avec le même charisme?
Si, certainement, dans les rangs de l'UDPS, il y a pas mal de personnalités fortes, de gens tout à fait qualifiés, mais quelqu'un qui a le pouvoir, disons, charismatique presque, de faire descendre la population dans la rue, de mobiliser les foules pour soutenir ses idées, et en cas d'échec, par exemple, de susciter de grandes manifestations, quelqu'un qui a cette même aura, pour l'instant, je n'en vois pas, à part peut-être le ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, mais il n'est pas dans le pays pour l'instant, il n'est pas autorisé à y revenir.
Est-ce que vous pensez que la suite de l'accord va continuer normalement ou c'est un accord qui va connaître beaucoup d'obstacles?
Non, je pense qu'il va mettre du temps à se mettre en œuvre. Il a déjà pris un mois de retard depuis la signature à la veille de la nouvelle année. Il finira par se mettre en œuvre, mais je pense même que l'opposition est affaiblie par le décès de M. Tshisekedi et que la majorité présidentielle, inversement, se serait plutôt renforcée parce qu'eux n'ont rien perdu, n'ont pas vraiment concédé. Et l'opposition, elle, s'est tout de même affaiblie d'une personnalité de poids qu'il a quittée.
Vous connaissez très bien Étienne Tshisekedi, vous côtoyez très souvent. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'avait pas encore désigné un successeur?
Non, ça c'est le gros problème, c'est que le DPS, son parti, risque de connaître une crise parce que il est mort pratiquement sans successeur. Bien sûr, il n'y avait pas de personnalité de son niveau. Une personnalité de son niveau, c'est difficile à trouver. Il a essayé dans les derniers temps de mettre sur orbite son fils Félix Tshisekedi, même de le proposer. On a parlé de lui pour le poste de Premier ministre, mais il n'a pas du tout la même aura, le même charisme, ni surtout la même implantation populaire que M. Tshisekedi lui-même, notamment parce qu'il a vécu longtemps en Belgique.
C'était Colette Brackman à Bruxelles.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno, président sortant de l'Union africaine, a donné une conférence de presse hier à N'Djamena. Elle a porté cette conférence sur le bilan de son mandat à la tête de l'Union africaine. L'élection du chef de la diplomatie tchadienne à la présidence de la commission de l'UA et aussi sur l'anniversaire des événements du 2 février 2008 qui ont failli lui coûter le pouvoir. Précision d'André Kotmadjingar.
Selon Idriss Déby Itno, son passage à la tête de l'Union africaine a été un moment exaltant car, dit-il, avec le soutien de chefs d'État africains membres de l'organisation, un point d'honneur a été mis sur les préoccupations majeures qui sont entre autres la paix, la stabilité et le développement, ainsi que la lutte collective contre le terrorisme et à la résolution des crises et conflits divers. Idriss Déby Itno se réjouit également du lancement du passeport pouvant permettre aux Africains de circuler librement dans leur continent et des réformes institutionnelles engagées sous son mandat.
Cette réforme vise à rendre l'Union africaine beaucoup plus efficace et efficiente, plus technique sans être bureaucrate et moins politique.
Le président sortant de l'Union africaine parle également des grandes décisions formelles adoptées au cours du dernier sommet pour redonner un souffle nouveau à l'organisation suite au retrait du continent de la Cour pénale internationale.
Le financement intégral de notre fonctionnement, la prise en compte par nous-mêmes la gestion de nos crises, et à cela s'ajoute la création de la Cour des droits de l'homme et des peuples de l'Afrique. Les magistrats sont nommés. Vous savez que le continent s'est retiré de la CPI pour permettre à cette institution panafricaine de gérer nos propres affaires par nous-mêmes. Et si la Cour africaine n'arrive pas à être à la hauteur de sa tâche, évidemment, le traité, nous l'avons tous signé, nous pourrons aller à la CPI. Mais d'abord, nous avons décidé que ça soit en Afrique.
Abordant la politique interne et le triste anniversaire du 2 février 2008, date à laquelle les rebelles ont failli le renverser du pouvoir, le président Déby affiche clairement son intention.
J'aurais bien souhaité me retirer et me reposer. Si vous, Tchadiens, vous êtes capable demain de ne pas vous affronter entre vous, de ne pas semer la haine ou de ne pas vous entretenir. La haine aujourd'hui qu'on cultive, vous croyez que c'est rassurant cela? Et je disais que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non! Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas que le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu merci, mon heure n'est pas arrivée encore. Mon acte de naissance est encore entre les mains de Dieu. Il n'a pas déchiré.
André Kotmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Au Mali, le chef d'état-major du CJA s'est exprimé. Seule une action commune des forces en présence au Mali peut combattre le terrorisme, a affirmé le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad du Congrès pour la justice dans l'Azawad. Il était à Bamako dans le cadre du comité de suivi de l'accord pour la paix. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Loin de ses bases militaires dans la région de Tombouctou et Taoudéni, le chef d'état-major du Congrès pour la justice dans l'Azawad, CJA, était à Bamako. Cela afin de négocier l'intégration de son mouvement dans les structures techniques de mise en application de l'accord d'Alger. Le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad avoue que l'application de l'accord pour la paix ne bouge pas.
Ça piétine, ça n'avance pas comme on le souhaite, parce que ça traîne, et plus ça traîne, il y a certains ennemis qui en profitent. Donc tellement notre problème, c'est en un mot, la représentativité au niveau de certaines commissions de l'accord, le CSA, la commission de défense, la sous-commission de défense et consorts, la CTS. Nous sommes une force, donc on a un problème aujourd'hui de représentativité au niveau de ces commissions parce qu'on se sent un peu délaissé et personne ne parle à notre nom.
Précédemment commandant des bases S de la CMA dans la région de Tombouctou, le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad a quitté la CMA avec ses hommes. Ils sont tous dans le CJA et possèdent deux bases militaires. Ils continuent de sécuriser certaines localités des régions de Tombouctou et Taoudéni, non sans peine.
Mon poste de Farache a été attaqué deux fois. En juin, il était attaqué. On a eu un mort. Les islamistes ont eu cinq. La deuxième fois, c'est bon décembre passé, où on a repoussé les ennemis. Ils ont eu deux morts. Nous, on n'a pas eu de morts, on n'a pas eu de blessés. L'explication de cette insécurité, c'est le terrain est vide. C'est un vaste terrain et les moyens manquent. Parce que combien de fois j'ai ramené des animaux volés? Combien de fois on a saisi des motos, une centaine de motos volées, qu'on a remis à Tonka et à Gunda?
Pour cet homme de terrain, la lutte contre le terrorisme doit se faire avec rigueur, en ne laissant aucun espace aux ennemis de la paix. Colonel Abbas Ag Mohamed.
C'est pas ça la solution. La solution, c'est d'occuper les terrains et de harceler les islamistes dans leur fief, en plein désert. Il faut vraiment de la rigueur.
En tout cas, le Congrès pour la justice dans l'Azawad CJA travaille avec les autorités maliennes pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les localités de Tombouctou où se trouve leur base militaire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le nouveau patron du département d'État, Rex Tillerson, a promis de travailler pour le succès de la diplomatie américaine, tout en disant compter sur la collaboration et l'expertise d'un personnel diplomatique pas entièrement acquis à la cause du nouveau président. Plus de 900 employés ont signé une pétition contre les mesures de Donald Trump sur l'immigration. Chérubin Dorcy l'a joint, Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques à l'université de Princeton.
Bon, moi je prends ça avec beaucoup d'appréhension, hein. D'abord parce qu'il faut l'expérience politique, il faut l'expérience diplomatique, et il faut avoir surtout un sens très clair des enjeux stratégiques actuels avant de jouer un tel rôle.
Excusez-moi de vous interrompre, professeur, mais ces affaires, justement, l'ont mis sur le parcours de beaucoup d'hommes d'État. Il a de l'expérience en ce sens.
Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est pas le fait de rencontrer les acteurs dans ces secteurs-là. Le problème, c'est d'avoir l'expérience et d'avoir les connaissances qu'il faut des enjeux. Moi, j'aurais préféré, clairement, disons, un politique et un diplomate à ce poste-là.
Et que pensez-vous des rapports de M. Tillerson avec, par exemple, Vladimir Poutine?
Mais c'est très inquiétant, hein, de mon point de vue, parce que la Russie, c'est quand même... pas le modèle de la démocratie. La Russie, c'est pas le modèle, même dans le monde des affaires, c'est pas le modèle de transparence et d'éthique. J'aurais même préféré la Chine, de ce point de vue, parce que bon, ils essaient de faire les choses d'une autre façon. Et le système chinois, c'est un système qui est loin d'être aussi répressif et aussi autoritaire que le système russe, quoi. Voilà. Donc, avec tout ce qui se passe sur le plan international actuellement, et notamment dans les pays de l'Est, l'Ukraine en particulier, c'est quand même difficile à comprendre, hein, que quelqu'un qui a des rapports aussi étroits avec l'un des adversaires les plus acharnés des États-Unis, que le ministre des Affaires étrangères a des rapports privilégiés avec celui-là.
Quelle direction voyez-vous prendre la diplomatie américaine sous Rex Tillerson?
C'est difficile à dire, hein. Bon, ce qui est clair, c'est que les rapports avec la Russie vont s'améliorer, peut-être pour le meilleur ou le pire. De l'autre point de vue... je pense que l'Afrique, en particulier, sera pas une priorité, parce que l'enjeu économique là-bas n'est pas aussi élevé que l'Asie et l'Europe de l'Est, en particulier. Et je pense que ça risque aussi d'être une diplomatie, une politique étrangère assez musclée.
43 sénateurs sur 100 n'ont pas voté pour Rex Tillerson. Il va diriger un département actuellement en pleine grogne. Il y a plus de 900 employés qui ont signé une pétition dénonçant le décret sur l'immigration du président Trump. Il va devoir être bon manœuvrier.
C'est ça, mais je ne sais pas s'il va le faire. Mais ce qui est intéressant, ce que je trouve très rassurant, et c'est ça la leçon, tout le monde parle de tout le négatif, tout le mal qu'on pense de Donald Trump. La situation telle qu'elle se présente, elle est inquiétante dans un certain sens, mais elle est aussi très rassurante dans un autre. Donc il y a une résistance et une opposition de plus en plus farouche, de plus en plus osée de la part non seulement des populations, mais en fait même au sein de l'administration, au sein des gens qui sont censés seulement obéir. Les gens disent non, nous avons le devoir de dire non à des choses auxquelles on ne croit pas.
C'était le professeur Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques à l'université de Princeton.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Merci d'avoir suivi cette édition matinale. Jean-Roger Bion, Idrissa Seydoudia et Daniel Brown à la mise en onde.